exclusivité sur NVS Radio, un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'économie du territoire. Rendez-vous consacré aujourd'hui à Marilyn Loiseau. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invitée et vous êtes présidente de la société 4 pattes qui est située à Nevers, rue de la Préfecture, si je ne me trompe pas.
C'est
voilà. Est-ce que vous pourriez présenter à nos auditeurs votre activité qui est installée depuis 2 ans maintenant?
Alors oui, merci. Donc j'ai ouvert un magasin plutôt axé sur l'alimentation naturelle pour les chiens et les chats. J'ai fait aussi des accessoires un peu et tout ce qui est produits cosmétiques.
Produits cosmétiques pour les animaux, on entend quoi par là?
Tout ce qui est shampoing, produits de soins.
Très bien. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez cette façon de travailler que vous avez, parce que on a l'habitude, effectivement, de voir que pour les animaux domestiques, les chiens, les chats, entre autres, on peut acheter l'alimentation un peu partout. Mais dans votre magasin, vous avez fait des choix assez engagés, finalement. Et j'aimerais que vous nous en parliez.
Alors oui, bien sûr, j'ai fait le choix engagé de développer ma propre marque de croquettes, où je travaille effectivement avec une usine en Angleterre, puisque malheureusement en France, sur toutes les usines de pet food que l'on a, il n'y en a pas beaucoup qui proposent de l'inclusion de viande fraîche à ce niveau-là. Et les Anglais ont su apporter cette modernité et cette demande.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en termes d'alimentation pour nos animaux, aujourd'hui, sur le territoire français, en termes de qualité, si je le mets en parallèle avec l'alimentation humaine, où on a quand même une réglementation qui est vraiment au top par rapport au reste de l'Europe en termes de sécurité sanitaire, on a une alimentation de moindre qualité qui est fabriquée en France, c'est bien ce que vous nous dites?
Alors, je dirais pas moindre qualité, mais effectivement, c'est sur les compositions qui laissent, pour mon sens, à désirer. On est plutôt sur de la farine de viande, effectivement.
En France, on est plutôt sur de la farine de viande. Vous me disiez, donc en Angleterre,
on est sur de la viande fraîche.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui fonctionnent sur de la viande fraîche également pour les animaux?
Oui, en Allemagne.
En Allemagne aussi.
Aussi, oui.
D'accord. Donc, vous avez votre propre marque.
Oui.
Sur laquelle vous surveillez justement donc la composition des aliments pour les animaux domestiques. Et du coup, vous choisissez vos fournisseurs librement?
Oui, tout à fait. Vu que je suis indépendante, je fais absolument ce que je veux dans mon magasin. Donc les marques, effectivement, qui rentrent selon mon cahier des charges bien précis.
Oui.
Et aussi celles qui partent.
Et aussi celles qui partent.
C'est ça.
Donc ce cahier des charges, en fait, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous sélectionnez justement les aliments que vous allez vendre à votre clientèle?
Alors effectivement, que ça soit à base de vraie viande, pas de la farine de viande, pas d'additifs, pas de sucre, puisque ça s'en est régulièrement blindé, si je puis dire.
Il n'y a pas que dans l'alimentation humaine qu'on trouve beaucoup de sucre partout.
C'est ça, oui.
Chez les animaux aussi.
C'est ça, chez les animaux, effectivement, parce que c'est le meilleur des appétants et c'est très addictif.
D'accord.
Donc, c'est pour ça, le sans sucre, le sans céréales, le sans produits bizarres ajoutés, on va dire. Non, on va rester plutôt sur des composantes naturelles, où on comprend effectivement notre liste des ingrédients déjà. C'est important de la comprendre.
Oui. Donc, en fait, dans votre cahier des charges, il y a une liste d'ingrédients que vous maîtrisez.
Oui.
Qu'est-ce que vous indiquez aussi dans votre cahier des charges qui est important pour les consommateurs?
Le sourcing aussi de la viande. J'aime bien savoir effectivement d'où ça vient et comment c'est produit. Ça, pour moi, c'est important.
D'accord. Donc, pour vos clients, en fait, qui viennent au magasin, ce sont des particuliers, je suppose, essentiellement.
Oui.
Comment vous fonctionnez, justement, pour faire connaître votre marque et faire connaître votre boutique à Nevers?
Alors là, effectivement, par le biais des réseaux sociaux, donc oui. Facebook, Instagram. J'ai le Journal du Centre qui m'avait fait un très bel article lors de mon ouverture. Oui. Et effectivement, j'aide aussi des associations locales maintenant. Donc il y a Lusson Handball, oui. où j'ai été ballon de match dernièrement. Et la chorale aussi, les Nomades.
D'accord.
Donc ça commence comme ça, tout doucement.
Voilà, ok. Parce que c'est pas évident de faire connaître sa marque quand on a face à soi des mastodontes, en fait.
Ah, effectivement. Il faut pouvoir se démarquer du lot.
Et c'est par la qualité que vous le faites.
C'est ça, la qualité, et pas forcément à un prix excessif.
Oui, parce qu'on pourrait se poser aussi cette question. C'est d'ailleurs... tant pis, hein, je vais faire un peu le parallèle pour nos auditeurs, mais on peut pas s'en empêcher de faire le parallèle entre les défis de l'alimentation humaine et les défis de l'alimentation pour nos animaux de compagnie. Aujourd'hui, on voit bien, avec l'inflation, que le secteur de la bio connaît des difficultés par rapport justement au prix plus important pour avoir des animaux bio. Et là, à contrario, vous me dites, c'est pas plus cher?
Non.
C'est moins cher?
On va être sur des prix, on va dire, équivalents, mais quand on regarde la qualité, on est bien moins cher, en fait.
Oui.
C'est ça,
si
l'avantage.
Vous pouvez nous donner un petit peu quelques exemples, alors, pas forcément de prix, mais de qualité, justement, qu'on retrouve dans les produits que vous proposez.
Des produits simples, comme j'avais dit précédemment,
oui, où on comprend très peu d'ingrédients.
C'est ça. Où on comprend déjà son étiquette. Il ne faut pas perdre de vue que le premier ingrédient qui est indiqué sur la liste, c'est celui où on a le plus.
Ça, c'est comme pour les humains, c'est bon.
Ça, c'est tout
pareil. Je me perds pas. Le premier ingrédient que l'on trouve sur une composition, c'est toujours celui qui est en proportion la plus importante dans la recette.
Voilà, c'est ça.
Donnez-nous un exemple, par exemple, de proportion de viande fraîche dans les produits que vous vendez.
Alors là, sur ma gamme sans céréales, j'ai une variété où on est à 65% de viande réelle dans la recette. Donc de viande fraîche et séchée, pour le coup. C'est simple, pour faire un sac de 12 kilos, l'usine met 10 kilos de viande fraîche.
D'accord. Alors vous me parlez de l'usine. Je voudrais qu'on s'attarde un peu, parce que vous nous avez expliqué, Marilyn Loiseau, l'importance pour vous de sélectionner les fournisseurs entrants, mais aussi les sortants, du coup. Vous allez beaucoup plus loin, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez plus qu'attentive entre les photos, les vidéos des usines qui fabriquent les aliments que vous vendez sous votre marque. Vous allez les voir aussi?
Ah bah bien sûr. Là d'ailleurs, je vais fermer mon magasin début juin, justement pour aller voir la chaîne de production, donc dans l'usine de mes croquettes.
Donc en Angleterre?
C'est ça.
Elle est où, cette usine, en Angleterre?
Ah, je pourrais pas trop le dire.
Ah, c'est secret.
C'est ça. On est allé à 1h30 de Manchester.
D'accord.
À peu près.
Bon. Donc, vous allez jusque-là pour pouvoir apporter une alimentation dont vous êtes garante, finalement, pour vos clients, et une alimentation de qualité. Petite question, vous parlez justement du sans céréales pour les animaux. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs quelle est l'importance ou de ne pas avoir de céréales dans l'alimentation?
Alors, le sans céréales, après, convient à certains, mais peut très bien aussi ne pas convenir à d'autres.
D'accord.
Voilà, ça dépend vraiment des microbiotes de chacun. Après, effectivement, comparé à de l'alimentation industrielle, on pourrait dire de grande surface et compagnie, où là, sur des recettes, on va être à 90% de céréales. Les chats qui sont des carnivores stricts, ou les chiens qui sont des carnivores non stricts, mais qui peuvent quand même digérer l'amidon, on va dire, ils sont pas faits pour manger autant de céréales. C'est pas des poules.
Donc ce que vous dites à nos auditeurs, c'est qu'en fait, quand on est propriétaire d'un animal, comme c'est mon cas, et que on achète en grande surface des grandes marques, finalement, on donne essentiellement des céréales à manger à nos animaux.
Oui.
Alors que leur organisme ne le tolère pas du tout, voire pas très bien.
C'est ça. Mais après, il ne faut pas se leurrer. C'est aussi la rentabilité pour ces grands groupes.
Oui. Alors, en tant que propriétaire d'animaux, je vais aller plus loin pour nos auditeurs. Quelle incidence cela peut avoir sur la santé de nos animaux à quatre pattes ?
Ah ben, de toute façon, ça va se voir tout de suite. Une mauvaise qualité de poil, une prise de poids excessive, un appétit insatiable, puisque on pourrait comparer ça un peu à du fast-food. Hein. Très clairement, c'est pas nourrissant. Et après, effectivement, des répercussions sur la santé par la suite, puisque le diabète et les problèmes rénaux, ça n'arrive pas tout de suite maintenant.
Donc à long terme, des problèmes de santé, et à court terme, des problèmes sur le pelage, la qualité du pelage, mais aussi, alors, ça me faisait rire quand vous parliez d'un appétit insatiable, parce qu'on voit hein, souvent dans les accessoires pour les animaux, des gamelles anti-gloutons.
Oui.
Finalement, il suffit d'avoir une alimentation de meilleure qualité et on n'a plus de gloutons.
Il y en a moins. Après, c'est pareil, ça dépend aussi de l'historique en fait de l'animal. Si c'est un animal qui a manqué de nourriture dans son passé, ou effectivement s'il a mangé de la malbouffe, ou s'il a été restreint. En l'occurrence, c'est ce que beaucoup de propriétaires font sur le chat, de restreindre. Alors qu'il ne faudrait pas pour le coup, puisque le chat, en sa qualité de félin, va manger 8 à 10 fois par jour.
D'accord. Et ce sont les éleveurs qui les restreignent ou ce sont les propriétaires ?
Non, les propriétaires. Parce que souvent, en fait, le chat va être en surpoids, donc on va se dire, on va le rationner.
D'accord.
Et du coup, en fait, c'est le cercle sans fin.
Très bien. Alors qu'en fait, il faudrait le nourrir mieux.
C'est ça.
Très bien. Marie Noiseau, donc vous êtes présidente de Quatre Pattes, la boutique d'aliments pour animaux. Nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous souhaitez que nos auditeurs écoutent et que vous avez choisi pour cette pause musicale.
Alors, j'ai choisi comme musique Feeling Good de Muse, car c'est la première chanson que j'ai écoutée dans ma voiture quand je suis allée ouvrir pour la première fois mon magasin.
Ah, donc ouais. Il y a une histoire derrière cette
chanson.
C'est ça. Eh bien, on se retrouve tout de suite après.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire, consacrés aujourd'hui à Marilyn Loiseau, qui est propriétaire de la boutique 4 pattes à Nevers, donc spécialiste de l'alimentation, mais aussi des accessoires pour nos animaux de compagnie, les chiens, les chats. Marilyn, vous nous avez donc expliqué ce que vous faisiez et l'importance que vous accordiez à la qualité de l'alimentation pour nos animaux. J'aimerais, dans cette partie qui est plutôt consacrée à l'actualité économique, que vous puissiez nous dire un petit peu comment se porte le marché des animaux de compagnie en France, puisqu'il semble que nous soyons des champions pour ce qui est de la détention d'animaux de compagnie.
Effectivement, si on regarde les chiffres, il y a un Français sur deux qui possède un animal de compagnie.
Très bien. Donc, nos auditeurs apprécieront et feront comme moi le compte. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois ou plus.
Tout à fait. Et ça représente à peu près, dans mes souvenirs, entre 600 et 800 euros de budget annuel.
D'accord. Quand on parle d'animaux de compagnie, chien, chat ou tout animaux de compagnie confondus?
Il me semble que c'était chien et chat.
Chien et chat. Parce qu'on a aussi une importance croissante des animaux de compagnie, dit les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Vous fournissez également pour ces autres animaux de compagnie ou pas du tout sur votre boutique?
Alors en boutique, là tout de suite, non, mais effectivement, sur demande, oui.
Sur
demande. J'ai quand même pas mal de fournisseurs. Donc effectivement, si on me demande, je peux voir pour commander, oui.
Donc on est sur un marché qui se porte toujours bien, les Français aiment toujours leurs animaux de compagnie, sont attachés et en prennent soin. On fait quand même un point sur, même si peut-être ça vous concerne moins au niveau de l'activité, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler l'importance des choix à faire quand on prend un animal de compagnie et de l'engagement que cela représente, parce qu'on voit aussi chaque année le scandale des abandons qui se fait. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs ce qui est important avant d'adopter un chien, un chat, peu importe?
Alors effectivement, ce qui est important avant de se poser la question de l'adoption, c'est est-ce qu'on a le temps déjà de s'en occuper? Est-ce qu'on a le budget en cas de gros pépins, ou même le budget pour la nourriture, si on veut lui donner une nourriture adaptée? Effectivement, c'est important de se poser cette question-là.
Oui.
Tout à fait.
Bon, donc on rappelle à nos auditeurs que lorsque l'on décide de prendre un animal de compagnie, on s'engage dans la durée et que ça n'est pas un achat coup de cœur que l'on va abandonner au pied d'un arbre, aux premières vacances venues ou parce qu'il est devenu trop gros. C'est un achat responsable, on va dire.
Tout à fait.
Au niveau de l'actualité toujours, nous sommes marqués dans notre pays par une inflation qui certes commence un petit peu à être moins importante, mais néanmoins, moi ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est l'incidence que cela a pour vous d'aller chercher vos produits à l'étranger. En France, on a vu que nombre d'entreprises ont bénéficié du bouclier tarifaire face aux hausses de l'énergie, mais on a eu aussi toute la difficulté des céréales. Et vous parliez tout à l'heure des aliments pour animaux qui contiennent essentiellement des céréales. On sait que dans le budget des ménages français, lorsqu'on a un animal de compagnie, eh bien, ces derniers mois, le prix des croquettes, entre autres, a fortement augmenté. Comment ça se passe pour vous qui vous fournissez exclusivement à l'étranger?
Alors effectivement, moi j'ai eu, si vous voulez, avec les Anglais, comme je les appelle, une augmentation trois mois après mon ouverture, parce qu'effectivement en Angleterre,
ça, c'était,
ouais, ça, c'était bien ça, parce qu'effectivement ils sont pris une inflation mais en pleine tête, hein, de quasiment 11%, donc ouais. J'ai eu une première augmentation et j'ai eu la deuxième en fait au mois de janvier. Après effectivement j'ai pu absorber une partie, puisque l'idée aussi c'est de rester compétitive envers mes clients, parce que je suis aussi moi-même ma propre cliente, faut pas l'oublier. J'ai aussi des animaux dans l'idée.
Vous en avez combien, vous?
J'en ai deux.
Deux?
Deux chats.
Deux chats. D'accord.
Donc, mais effectivement, le fait de se fournir en Angleterre et directement auprès de l'usine, j'arrive quand même à contrôler mes prix, en sachant que eux, justement, leur approvisionnement, c'est qu'en Angleterre, même pour la viande, tout vient de chez eux. Il y a juste une recette que je fais rentrer au magasin qui est à base de buffle italien. Mais c'est la logique. On n'a jamais vu d'élevage de bufflone au fin fond de l'Angleterre.
D'accord.
Donc c'est logique.
Donc effectivement, un impact plus important pour vous de l'inflation et du coup de l'énergie qui s'est répercutée sur les prix au niveau des Anglais. Vous avez vécu la même chose quand vous servez auprès d'entreprises allemandes, puisque vous avez fait référence tout à l'heure aux Allemands également.
Là, pour les Allemands, encore, ça va. Il n'y a pas eu trop d'augmentation de tarifs, mais je pense plutôt à d'autres marques italiennes très connues qui, effectivement, ne se gênent pas pour augmenter les tarifs envers leurs revendeurs.
D'accord. D'où l'entrée-sortie des fournisseurs, c'est ça?
Oui, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus engraisser toujours les mêmes sur des groupes qui sont cotés en bourse. Non. C'est pas possible.
Vous estimez qu'ils auraient dû faire un effort pour prendre à leur charge une partie de ce surcoût?
Oui, je pense. Mais je pense surtout qu'il y a tout en haut de la chaîne des gens qui se payent grassement sur le dos des consommateurs.
Il y a eu un effet d'aubaine?
Je pense bien.
Ok. Au niveau de justement de nos auditeurs qui pourraient être clients, qu'aimeriez-vous leur dire justement par rapport à ces hausses de prix, par rapport à la conjoncture actuelle, dans l'intérêt justement de ces fournisseurs que vous avez en direct? C'est ça qui vous permet de tirer quand même les prix?
Ah, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, de passer en direct, effectivement, on peut jouer là-dessus sur le prix, parce que sinon, on le sait bien, plus il y a d'intervenants et plus tous prennent leur marge.
Donc, si on résume, vous avez pu contenir l'impact d'une inflation subie de façon beaucoup plus importante en Angleterre, par le biais justement de vos négociations et du fait que vous travaillez en direct, ce qui fait que en approvisionnement, on va dire, en proximité au sein de votre boutique, les consommateurs s'y retrouvent quand même.
Oui, tout à fait. On a déjà fait le ratio avec certains de mes clients. Sur un sac, je prends l'exemple d'un 100 céréales de 5 kilos, pour un chat tout seul, ça lui fait 3 mois.
D'accord.
Donc ramener au mois, ça fait pas grand chose en fin de compte.
Finalement, ça fait grand chose. Parfait. Nous arrivons au terme de cette seconde partie consacrée à l'actualité. Marilyn Loiseau, pardon, je voudrais que vous nous indiquiez ce que vous aimeriez écouter pour cette coupure musicale.
Alors, une musique de Bruno Mars, c'est Hubdon Funk.
Très bien. On se retrouve tout de suite après.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Some nigga in it. Take a sip.
hallelujah. Girl, send you hallelujah. Girl, send you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk.
Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacré aujourd'hui à Marilyn Loiseau qui est propriétaire de la boutique 4 pattes à Nevers, donc alimentation et accessoires pour animaux de compagnie, chiens et chats, comme son nom l'indique. Marilyn, moi j'aimerais sur cette troisième partie qui vous est consacrée que vous nous expliquiez d'abord quel est votre parcours professionnel, personnel, mais enfin... comme vous le souhaitez.
Alors, parcours pro, c'est simple. J'ai toujours été dans le commerce.
Oui.
Je suis issue d'une famille de commerçants. Ma sœur était commerçante, mon oncle. Mon conjoint est commerçant.
D'accord.
Donc, c'était...
tout le monde est commerçant chez vous.
C'est ça. C'était plus qu'une évidence. Effectivement, j'ai quand même le verbe facile et j'adore le contact avec les clients.
Très bien. Toute petite, vous rêviez de faire quoi ?
Alors, toute petite, je voulais être garde forestier à cheval.
Ah oui.
On est très loin.
Non, mais moi, j'aime bien quand même qu'on puisse partir des rêves d'enfants et voir comment ils ont évolué. Alors, garde forestier à cheval, pourquoi vous vouliez faire ça, hein ?
La nature, déjà.
Oui.
Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la nature.
Oui.
Ça se retrouve maintenant, de toute façon.
Oui, il me semble que vous avez quelques choix pour l'alimentation des animaux qui nous démontrent effectivement cet intérêt.
C'est ça, c'est très assumé. Après, effectivement, les chevaux, ça a toujours été ma passion. Ma passion première, mais bon, après, effectivement, ça, les animaux, ça a toujours été mon truc.
Les animaux, ça a toujours été votre truc, donc du coup, vous êtes parti sur cette activité. Mais avant d'ouvrir votre boutique, vous faisiez quoi ?
Alors, je travaillais avec ma sœur dans son magasin aussi d'alimentation animale sur Moulins. Mais auparavant, j'ai pu découvrir en fait le milieu du chien de travail avec elle au sein de son élevage. Donc, c'était du malinois de travail et du chartreux. Elle faisait aussi du chat.
D'accord. Oui, le chartreux en travail, non ?
Non.
Ah, on est d'accord. Parce que le malinois de travail, je vois tout à fait. Le chartreux, j'imaginais beaucoup moins.
C'est ça.
La partie travail. Donc, en fait, vous avez commencé quand même sur de l'élevage et du commerce déjà, mais pas en tant qu'entrepreneur. Sur le chien de travail, qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que vous faisiez avec ces malinois ?
Alors, du débourrage, déjà, effectivement, par rapport, en fait, à la gendarmerie, on travaillait à l'époque avec l'agence Sinophile qui était sur Nevers.
Oui.
On avait aussi des contacts pour la police sur Paris, effectivement, puisque ces chiens de travail, il faut les entraîner au mordant, à la recherche. Donc, il y avait tout ce travail-là qui était effectué en amont, donc, par ma sœur et son ex-mari. Mm-hmm. Donc, j'ai pu bénéficier de toute cette expertise dans ce milieu qui est vraiment très intéressant.
Pour nos auditeurs, j'aimerais juste qu'on précise ce qu'on entend par le terme débourrage.
Du dressage.
C'est du dressage.
Vous commencez le dressage. Oui.
Vous commencez le dressage, mais oui. Avec cette activité particulière, donc pour les chiens policiers.
Oui, c'est ça, pour voir un peu effectivement les aptitudes, s'ils sont plus effectivement sur de la sino pour les agents de sécurité, s'ils seraient plus sur de la recherche de drogue, de stupéfiants ou de personnes, ou simplement sur des bons gardiens d'entreprise.
D'accord, c'est ce qu'on appelle donc les chiens de travail.
C'est
donc
ça.
Ensuite, la partie commerce est déjà donc un peu votre métier finalement que vous faisiez avec votre sœur.
Aussi, mais plus dans toute mon expérience passée, effectivement,
oui.
Où j'ai vendu de tout.
De tout.
On pourrait dire ça, du mimosa en passant par les surgelés, les vêtements pour enfants ou des produits d'épicerie fine.
Donc du commerce toujours, toujours,
ah,
toujours, toujours.
Ah oui.
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer, Marie-Line Loiseau, dans l'ouverture de votre propre boutique, de votre le lancement de votre propre marque d'alimentation?
Eh bien, c'est ma sœur, puisque j'ai pu voir aussi avec elle qu'être une femme entrepreneur, eh bien, ça marche. Ça m'a donné envie,
sans
en fait,
rire.
De me réaliser. C'est ça.
Alors, expliquez-nous, être une femme entrepreneur, c'est quoi, selon vous, les contraintes, justement, d'une femme entrepreneur par rapport à un homme? Qu'est-ce qui fait la différence? En termes de contraintes, on verra après pour le reste.
Et ben le fait justement d'être une femme et des fois de pas être prise au sérieux dans certains milieux, effectivement.
Oui. Vous pensez aux difficultés qu'ont les femmes entrepreneurs à avoir plus facilement des emprunts, par exemple, à souscrire des emprunts auprès des banques? Ce sont les banquiers qui prennent pas au sérieux?
Oui, je pense, mais après on pourrait voir même au-delà de tout ça, c'est la société patriarcale hein, qui veut ça, hein, très clairement.
Ça c'est dit. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024, pour vous c'est toujours compliqué de se lancer quand on est une femme? C'est toujours un défi plus important que quand on est un homme?
C'est toujours un défi, après effectivement, c'est vrai que j'ai été bien aiguillée et bien suivie par mes partenaires financiers et même par la ville de Nevers, mm-hmm. où j'ai trouvé une écoute attentive et de très très bons conseils à l'époque,
oui,
par la
important.
Dame qui était chargée des nouveaux commerçants.
D'accord.
Donc non, c'était plutôt un retour positif.
Mais pour vous, un défi de dire je suis une femme et j'entreprends, c'est mon rêve?
C'est ça.
Quels sont pour vous les plus des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat?
La sensibilité. Je pense que
c'est
un plus.
Une qualité, c'est un plus.
Ouais.
Parce que une femme entrepreneur, vous la voyez comment? Si on faisait un parallèle, un homme entrepreneur, alors on va être dans les caricatures un peu, mais c'est pas grave, nos auditeurs nous pardonneront, mais un homme entrepreneur, une femme entrepreneur, pour vous, la différence entre les deux, c'est quoi? Et c'est quoi le plus pour les clients de ces deux entrepreneurs?
Moi, pour moi, ça serait effectivement la sensibilité et plus d'écoute.
Plus d'écoute.
Oui, pour moi, c'est vraiment ça. Et l'accessibilité aussi.
D'accord. On se prend moins la tête?
Oui.
vous avez, au travers de la première partie de cette émission, déjà bien expliqué vos engagements, les valeurs qui sont les vôtres. Qu'est-ce qui est important justement? Vous me parliez tout à l'heure de cette liberté. Vous faites ce que vous voulez.
Oui.
C'était une condition sine qua non pour pouvoir vous installer et créer votre entreprise ?
Ah, bien sûr.
D'avoir cette maîtrise-là ?
Ah oui, mais c'est important en fait d'être à tous les bouts, de pouvoir faire effectivement ce que l'on veut et de vraiment donner une direction commerciale à son entreprise. Ça, c'est clair. Moi, j'aime bien trouver des marques engagées, des marques éthiques. Ça me fait penser à une marque que je vends en magasin, c'est Brotte. Donc, c'est des colliers qui sont fabriqués à la main à côté de Barcelone.
D'accord.
Je suis allée les voir pendant mes vacances.
Oui, alors vous allez voir comment sont fabriquées ouais. les croquettes, mais aussi les accessoires.
C'est ça, les accessoires, effectivement, quand je peux. Et je sais que quand je fais une commande chez Brotte, eh bien, mon argent paye le salaire des deux couturières que j'ai vues. Et ça, pour moi, c'est super important.
Savoir jusqu'où, où va l'argent. Et finalement, c'est cette traçabilité, cette transparence que vous voulez redonner à vos clients ?
Ah, c'est sûr. Ça, c'est indéniable.
Deux questions avant de clore cette émission. Première question, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui ont un projet de création d'entreprise, mais qui hésitent encore, qui n'osent pas se lancer ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ?
Qu'elles se lancent, qu'elles laissent le mari à la maison et qu'elles n'hésitent pas.
Il peut faire ce qu'il veut.
C'est ça. Non, qu'elle n'hésite pas à se lancer et qu'il ne faut surtout pas vivre avec des regrets.
Surtout pas vivre avec des regrets. Dernière question avant de clore cette émission, Marie-Line Loiseau. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre rêve ?
Ah ! Non, plus terre à terre, là, le rêve, vraiment, ça serait effectivement de pérenniser mon entreprise dans le temps.
Oui.
Et de créer de l'emploi.
Créer de l'emploi.
C'est ça, je pense, le rêve de tout entrepreneur, en fait. C'est pouvoir transmettre et créer.
Et transmettre.
C'est ça.
Sur ces belles paroles, je vous propose que l'on se quitte. Je vous remercie en tout cas d'avoir été notre invité de ce jour.
Merci à vous.
Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'économie du territoire. À très bientôt.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.